Tout de suite là?
Oui, ça y est, c'est l'enregistrement est lancé. Vous pouvez.
Je crois que tu faisais une petite introduction sur l'ouverture du séminaire. Non, bon.
Non, bah non,
D'accord.
ça y est, on commence le séminaire.
Ah bon, on commence le séminaire tout de suite. D'accord. Bon, eh bien, ce séminaire, vous allez voir, hein, vous allez avoir une succession d'interventions et puis des discussions ensuite à partir de ce qui aura été présenté. Alors, à la fois pour les étudiants en présentiel qui sont de toute façon à distance et les étudiants de l'IED qui sont, eux, toujours à distance. Alors, je vais d'abord me présenter moi-même et présenter Vera. Je vais commencer par Vera, d'ailleurs, ça sera plus poli. Vera vient de soutenir sa thèse en sciences de l'éducation. Elle l'a soutenue le 1er juillet 2020. Et le titre de sa thèse, c'est On ne naît pas photographe, on le devient, contribution à une histoire sociale et genrée des formations artistiques et techniques en France 1945-1982. Elle pourra vous en dire un petit peu plus sur elle-même tout à l'heure quand elle prendra la parole. Et moi, je me présente parce que je ne connais pas encore non plus tous les étudiants d'EM1 et 2. Alors, je suis depuis le mois de septembre professeure de sciences de l'éducation au département de sciences de l'éducation et de formation de Paris 8. Auparavant, j'étais à l'université de Reims. Je suis socio-historienne, je travaille sur l'histoire de l'éducation et de la formation des adultes et je vais avoir l'occasion de vous en dire un petit peu plus quand je vais me présenter tout à l'heure. Donc, j'arrête là pour cette présentation personnelle. Je voudrais quand même rapidement vous expliquer un petit peu pourquoi ce thème, hein, les images comme source pour une socio-histoire de la formation, et ce qui nous réunit, Vera et moi, autour de la thématique de ce séminaire. Alors, bon, Vera pourra compléter, hein, mais j'ai mis quatre points qui peuvent nous réunir. D'abord, un très fort intérêt pour les images et pour toutes les deux, une pratique de la prise de vue, de la photographie qui ben, se transmute en recherche sur et avec les images et qui peut perdurer à côté par ailleurs. Le deuxième point, c'est dans cette recherche une intention de mettre au jour des impensés, des politiques de formation, impensés qui transparaissent dans les images, la plupart du temps complètement à l'insu des créateurs et des diffuseurs d'images. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on va aussi vous présenter tout à l'heure. Ensuite, ce qui nous réunit, c'est encore la période. La période que nous étudions, la période de l'après-Seconde Guerre mondiale, avec un focus plus particulier pour moi pour les années 60-70, mais aussi, Vera va aussi insister sur ces années 70, je pense, aujourd'hui. Et enfin, le quatrième point qui nous réunit, c'est l'analyse de genre, c'est-à-dire le croisement de l'analyse de genre et de l'analyse des images. Nous sommes toutes les deux convaincues, comme l'historienne Joan Scott, que le genre est une catégorie utile pour l'histoire, alors pour l'histoire en général, et surtout pas seulement pour l'histoire des femmes, hein. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est que Vera commence pour 30 minutes de présentation. Et ensuite, alors, je pense qu'on n'a pas prévu de questions-réponses, mais s'il y avait quelque chose qui n'était pas compris, on pourrait peut-être se permettre quelques questions quand même, mais ça ne sera pas de la discussion. Et ensuite, j'enchaînerai pour une demi-heure de présentation, et enfin, on laissera le débat s'installer, et ce sera à vous de poser vos questions et d'intervenir comme vous le souhaitez. Voilà, donc je laisse la parole à Vera.
Activer son micro avant de parler, c'est toujours mieux. Donc, merci beaucoup, Françoise. Alors, je vais lancer tout de suite le PDF parce qu'ensuite, je n'arriverai pas à faire deux choses en même temps. Donc, on va tout de suite partager l'écran avec. Donc, là, normalement, vous devriez voir une présentation qui s'appelle Sources et méthodes pour une histoire visuelle de l'éducation. C'est bon? Ok. Donc, merci beaucoup à Françoise de m'avoir invitée à discuter avec vous aujourd'hui. Merci aussi aux co-organisateurs et co-organisatrices du séminaire de m'accueillir et d'animer la discussion. J'aurais beaucoup aimé vous rencontrer en chair et en os, mais voilà, on va faire connaissance par écran interposé. Si jamais je vais trop vite ou s'il y a quelque chose qui n'est pas évident, pas clair au niveau des termes que je peux employer ou des notions, n'hésitez pas à utiliser peut-être le chat pour mentionner ça et faire remonter pour ensuite ou éventuellement évidemment de garder vos questions un peu plus concrètes et solides pour la fin. Donc comme Françoise l'a dit, je suis Vera Léon et je suis donc docteur depuis cette année en sciences de l'éducation. Je suis chercheuse associée au laboratoire du CERLIS, un laboratoire qui est rattaché à l'Université de Paris. Vous connaissiez peut-être l'Université Paris-Descartes plus tôt, c'est la fusion de cette université. Et je suis aussi rattachée cette année à un autre lieu de réflexion sur les images qui s'appelle l'Institut pour la photographie, qui est un lieu qui existe depuis 5 ans, 3, ouais, on va dire 5 ans, dans les Hauts-de-France, donc à Lille, et dans lequel donc, je suis lauréate d'un programme de recherche, enfin de soutien à la recherche et à la création. Et donc j'ai aussi enseigné voilà, depuis plusieurs années à l'université, en INSPE, j'interviens dans une école de travail social. Donc c'est aussi à ce titre-là qu'on partage un certain nombre d'intérêts sur les problématiques de l'éducation, mais aussi des images. Et donc dans ma thèse, je me suis intéressée aux questions de genre et de classe sociale comme des catégories d'analyse, comme disait Françoise, pour analyser les formations et les métiers, et en particulier donc les formations et les métiers de la photographie, donc qui sont très spécifiques par rapport à d'autres, évidemment, secteurs de formation et d'autres secteurs professionnels. Mais l'idée, c'était de le prendre comme un cas d'étude pour comprendre la différenciation des trajectoires à la fois scolaires et professionnelles, et de comprendre aussi la différenciation des expériences des apprenants, mais aussi ensuite des jeunes professionnels. Je me suis intéressée dans ce cadre à la production des inégalités de classe et de genre dans le cadre des transformations des formations professionnelles qui ont lieu dans l'après-guerre et dans le cadre aussi d'une reconfiguration du marché du travail, notamment avec la baisse d'un certain nombre de secteurs artisanaux au profit de secteurs industriels. Et pour ceci, là c'est un très rapide focus sur la thèse, mais j'ai choisi de croiser en fait des méthodes assez variées, comme alors avec des méthodes assez classiques, notamment en socio-histoire, comme le dépouillement de nombreuses archives publiques et privées, des archives d'établissements, des établissements scolaires, des archives d'entreprises aussi. Mais j'ai aussi eu recours à des entretiens, comme on le fait donc plutôt en sociologie, à des entretiens semi-directifs, et surtout à des sources visuelles, et c'est la raison qui m'amène à discuter avec vous de ce sujet aujourd'hui. Alors, la raison pour laquelle je me suis intéressée aux images, vous allez le comprendre aisément. En fait, il y en a plusieurs. La première chose, évidemment, vous l'aurez compris, c'est que les photographes, qui sont les producteurs donc, de notre culture visuelle quotidienne, sont les parties prenantes de cette production d'images. Et donc, je voulais comprendre comment leur regard, qui fait circuler dans notre société un certain nombre de normes visuelles, mais aussi normes sociales, avaient été formées, donc en suivant quelles contraintes, quels modèles, etc., avec comme hypothèse de départ l'idée qu'on ne peut pas délier la représentation des femmes ou des personnes d'origine modeste dans les secteurs de la formation et du travail photographique et les activités de ces photographes, c'est-à-dire les représentations qu'ils et elles font circuler, qu'ils et elles produisent. Donc ça, c'était la première raison qui m'a même amenée à m'intéresser à ces questions d'image. La deuxième raison, c'est aussi que les sources visuelles permettent, on le voit de plus en plus avec des travaux récents, de pallier à certains points aveugles d'autres sources historiques, notamment sources écrites. Alors, ça ne veut pas du tout dire, évidemment, qu'il faudrait faire un usage exclusif des sources visuelles. Évidemment que le croisement des sources est une méthode tout à fait indispensable en histoire. Mais quand, par exemple, Michel Perrault parle des silences de l'histoire à propos des sources qu'on peut trouver pour écrire une histoire des femmes ou une histoire du genre, en fait, elle parle de ces silences de l'histoire parce que les sources traditionnelles qu'on utilise en histoire sont souvent incomplètes, ne permettent parfois pas de prendre en compte certaines problématiques. Et donc, l'idée, c'était aussi de mettre en évidence les asymétries, les assignations de genre grâce à d'autres sources, des sources qui sont moins utilisées par les historiens. Et donc, de mettre en évidence voilà, ces asymétries qui saturent les espaces sociaux, mais qui souvent sont en creux des sources. C'est une problématique évidemment qui est un peu différente quand on s'intéresse à la sociologie, puisqu'on s'intéresse à aujourd'hui. Et donc on a accès à davantage de diversité finalement de sources. Et puis dernier plan, c'est peut-être la portée épistémologique, mais en même temps qui est parfois... Alors, les sources visuelles restent assez marginales hein, dans les usages aujourd'hui encore des socio-historiens. Le cinéma était un petit peu plus utilisé, mais les sources visuelles en tant que telles font l'objet actuellement d'une dynamique historiographique qui est très riche, mais qui est encore voilà, qui n'est pas forcément toujours sur le devant de la scène, et surtout qui donne lieu à des croisements très féconds avec les sciences de l'éducation. Et ça, c'était vraiment un point qui m'intéressait, c'était de penser l'apprentissage d'un métier, la socialisation scolaire et professionnelle, de les penser aussi à travers ces images qui donnent, on va le voir maintenant dans les cas dont je vais vous parler, qui donnent matière à penser, qui donnent des éléments qui sont vraiment fructueux pour mener ce genre d'études. Donc, le fil conducteur de mon intervention, ça va être donc une étude de cas essentiellement sur laquelle je vais prendre le temps de m'arrêter, et puis si j'ai le temps je vous parlerai d'une deuxième étude de cas, ou en tout cas je conclurai avec cette deuxième étude de cas qui permettra aussi de montrer un certain nombre d'autres aspects de la question. Alors du coup j'ai pas du tout fait défiler mon PowerPoint comme on aurait pu s'en dire. Voilà, donc comment est-ce qu'on peut... Alors, la première étude de cas a porté sur une brochure illustrée d'école. Alors, les brochures illustrées, c'est une des sources, hein, évidemment, des sources visuelles, il y en a énormément. Ça peut être des sources, entre guillemets, traditionnelles, c'est-à-dire les journaux, un ensemble d'imprimés, finalement, sur lesquels on peut porter un regard particulier spécifiquement sur les images. Et ici, je me suis intéressée donc, à une brochure d'école, puisqu'il me semblait que c'était intéressant de voir quels étaient les éléments qui étaient présentés aux futurs étudiants et étudiantes d'une école, justement, de photographie qui existe depuis l'entre-deux-guerres, qui s'appelle l'École nationale de photographie. Et donc, je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai mené cette démarche. Donc, en fait, je prends cet exemple parce que l'École nationale de la photographie, contrairement à beaucoup d'écoles techniques qui sont restées longtemps des écoles non mixtes, donc qui séparaient très clairement les domaines masculins et les domaines féminins, donc qui du coup, dans le secteur de la formation, finalement, venaient en miroir de ce qui se passait sur le marché du travail, c'est-à-dire venaient vraiment diviser les effectifs sur un critère sexué. Ce qui est intéressant, c'est que cette école de la photographie, elle se caractérise par la mixité de ses élèves, puisque depuis sa création dans l'entre-deux-guerres, c'est une école qui a été créée par les industries photographiques, et du cinéma d'ailleurs, hein, c'est une école, je vais parler surtout de son versant photographique, mais il faut être conscient que c'est aussi une école de cinéma. Vous la connaissez peut-être d'ailleurs sous un autre nom, elle s'appelle aujourd'hui l'école Louis Lumière, c'est une école nationale supérieure aujourd'hui. Et donc, ce qui était intéressant dans cette école, c'est qu'on pouvait justement regarder comment ces questions de mixité, comment ces questions de genre étaient représentées, pas uniquement à travers un prisme d'un milieu non mixte, qui serait seulement les filles ou seulement les garçons, mais vraiment de voir aussi comment les relations filles-garçons dans le secteur éducatif pouvaient s'articuler et pouvaient être représentées. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette école, donc j'avais fait une première étude de cas au début de ma thèse en fait, et j'avais montré donc au début c'est une école qui est assez investie par les filles, notamment dans l'entre-deux-guerres quand elle est créée, et en fait le taux de diplômés en photographie va diminuer au fur et à mesure après la Seconde Guerre mondiale et va passer de presque 50% à 10% dans les années 70. Et donc en gros une de mes questions de départ c'était aussi de comprendre quels étaient les facteurs qui avaient pu expliquer cette diminution qui n'est pas régulière, hein, qui est relativement hachée, mais en tout cas qui est quand même une diminution très importante de la présence d'étudiantes dans une école traditionnellement mixte, sachant que les promotions, vous le voyez sur le graphique, les promotions de 1970 et 1973 sont quasiment masculines, hein, il y a juste une seule étudiante dans les promotions. Donc l'idée, c'était de comprendre ce recul de la mixité, alors même que c'est un moment historiquement où il y a énormément de femmes qui viennent au contraire investir des nouveaux secteurs de la formation, mais aussi et de la scolarisation de manière générale, mais aussi des nouveaux secteurs professionnels. Alors, bien sûr, les causes de ces variations sont multiples, hein, je ne vais pas vous expliquer l'ensemble du processus, mais on va dire qu'aujourd'hui, je vais me concentrer sur la façon dont les imprimés scolaires, et en l'occurrence les brochures scolaires, vont permettre de déceler certains ressorts implicites, ressorts sociaux, ressorts genrés, qui vont permettre de comprendre quelles sont les représentations contemporaines des photographes et de leur formation, et donc comment est-ce que l'école se positionne vis-à-vis de ses futurs élèves. Alors là, je vous ai mis sur le... Ici, vous avez en fait les trois premières brochures. C'est juste pour vous montrer qu'il y a déjà des brochures depuis longtemps, hein, depuis l'entre-deux-guerres. Mais la brochure qui m'a le plus intéressée, c'est donc une brochure de 1967, donc, qui est là en tout petit en dessous, et puis qui comprend, en fait, c'est la première fois qu'elle est illustrée, donc ça me semblait intéressant, parce que c'est vraiment un moment où le développement de la presse illustrée, notamment à destination des jeunes, se développe, et donc du coup, il y a vraiment une dynamique où on veut illustrer, donner envie, l'image est vraiment un support pour attirer des nouveaux publics, et notamment des jeunes étudiants et étudiantes. Ce qui est intéressant, c'est que donc parmi ces illustrations, il n'y en a pas énormément, puisque ça coûte encore un peu d'argent à cette époque-là évidemment d'imprimer des images, mais en tout cas, il y a deux images qui m'ont particulièrement intéressée, puisqu'elles sont vraiment consacrées à cette section de photographie à l'école. Et donc, elles représentent donc les étudiants dans leur apprentissage pratique de cette spécialité. Alors, on va étudier successivement deux rôles qu'ont ces images dans cette brochure. Le premier rôle, c'est un rôle de documentation, finalement, du quotidien scolaire. C'est un des premiers rôles qu'on va utiliser quand on utilise des images en tant qu'historien, historienne ou sociologue. C'est finalement documenter. Hein. Quand on prend une image de quelque chose, elle va nous donner des informations sur la situation, le lieu, les personnes, etc. Donc, ça, c'est le premier usage des sources visuelles. Le deuxième usage, c'est, sachant que ces sources, elles ne sont pas isolées comme ça dans un carton d'archives, elles ne sont pas simplement passées d'une main à l'autre, d'un étudiant à l'autre, mais elles sont publiées avec l'aval de l'école pour promouvoir l'image de cet établissement. Et donc là, on va s'intéresser aussi aux conceptions que donne et aux normes donc, que propose la direction de cet établissement en direction du public visé. Et qui va donc renseigner les potentiels élèves sur la formation présentée, sur la socialisation, à la fois dans le cadre de la formation, mais aussi sur la socialisation au métier. Alors, donc, le premier point, donc, c'est vraiment le document. Quand on utilise des images, on utilise des images d'abord comme documents, et notamment pour documenter un quotidien en l'occurrence scolaire, ou un quotidien de la formation. Ici, la première image sur laquelle on va s'arrêter le plus, elle dépeint donc la prise de vue en studio dans le cadre de l'option photographie. Donc on voit que les fenêtres sont occultées pour maîtriser la lumière de manière artificielle avec donc la présence de flash. Et puis on a une douzaine de personnes en formation qui sont présentes dans le studio, probablement l'équivalent d'un demi-groupe de travail puisqu'on sait que les promotions sont environ composées d'une trentaine de personnes, un peu plus que votre promotion. Et puis, parmi eux, on a au moins un professeur qui est présent, celui qui calcule l'exposition avec dans la main un appareil pour calculer l'exposition et qui est donc repérable probablement du fait de son âge plus avancé, on peut l'imaginer en tout cas en comparant les différentes personnes représentées. Au centre de la composition, on voit bien l'appareil photographique, une chambre de type 13-18, qui est donc l'élément central sur lequel est placé l'accent visuellement. C'est vraiment le centre de cette composition. Et c'est logique, puisque c'est une scène d'apprentissage des techniques de prise de vue en studio, donc jusque-là, rien d'anormal. Le second point qui focalise les regards, ceux de plusieurs figures représentées comme ceux de nous, les personnes qui regardent cette brochure, c'est dans la partie la plus éclairée du studio, une femme qui pose avec un parapluie devant un fond photographique, hein, comme celui qui est derrière Françoise aujourd'hui, qui permet justement de donner l'impression qu'on est dans un environnement cohérent. Et voilà. Elle est donc la seule femme dans cette partie de l'espace, cette partie gauche de l'espace de l'image, et elle a donc pour rôle de rester statique le temps des réglages techniques, puis le temps de la prise de vue. À l'inverse de toutes les personnes qui l'entourent dans cette partie de l'image et dans cette partie aussi de l'espace du studio, toutes ces personnes qui l'entourent, elles, sont occupées à une fonction assignée, faire des réglages sur l'appareil, orienter les multiples spots, mesurer avec une cellule l'exposition optimale pour une prise de vue. Et elle, à l'inverse, elle semble, voilà, elle attend, elle est statique. Dans un troisième temps, on peut s'intéresser à un dernier élément de la composition, la zone à droite de l'image, qui est un espace qui est apparemment plus convivial, moins directement, entre guillemets, professionnel, au sens où il n'est pas directement destiné à participer à la production photographique. On y voit donc une table entourée de chaises avec des boissons, et ce sont trois femmes qui y sont attablées et qui, contrairement aux autres personnes en présence, ne focalisent pas leur regard sur cette première femme, mais sur l'opérateur qui prend le cliché, donc sur nous en fait, puisque l'opérateur est à la place de... C'est lui qui regarde l'image, et donc ensuite, quand nous, on regarde une image, on regarde comme si on était l'opérateur. L'opérateur, c'est le nom qu'on donne au photographe. Alors, quelques remarques pour analyser cette image. Déjà, vous voyez que dans l'analyse que j'en ai faite en trois temps, comme ça, on voit qu'il y a une partition de l'espace entre lieu de production et lieu de détente, position debout et position assise, savoir-faire technique et rôle, ce qu'on pourrait appeler un rôle relationnel, quand on en parle souvent dans les études de genre, qui va recouper donc quasiment exactement la répartition sexuée des individus dans l'image. Donc, même si finalement c'est une femme qui est au cœur de cet espace de production de l'image, elle n'a pas un rôle technique ni photographique à proprement parler, elle a plutôt un rôle esthétique. Et donc, on voit vraiment qu'il y a une répartition des rôles. Alors, est-ce que pour autant, on peut dire que finalement, c'est un indice suffisant pour croire que c'est comme ça que ça se passe dans les formations de cette époque-là? Évidemment, il va falloir croiser les sources, et c'est ce que j'ai fait donc, en menant une douzaine d'entretiens avec des anciens, anciennes élèves de cette école. Et effectivement, cette assignation systématique des jeunes femmes à être les personnes qui sont représentées sur les images et non pas les personnes qui prennent les images, alors même qu'elles ont passé le même concours que les étudiants à leur côté et qu'elles ont la même envie, évidemment, d'apprendre à faire des photographies et non pas à être des objets du regard photographique, est effectivement corroborée par un certain nombre d'entretiens que j'ai pu faire. Et donc, ce qui est intéressant de souligner, c'est que finalement, il y a une forme de division sexuée des tâches qui va se recomposer malgré la mixité de l'école. C'est-à-dire que c'est une école qui est une école mixte, et c'est une innovation relativement intéressante. On n'est pas encore après 1975 où la mixité va devenir obligatoire avec la loi Abi. Mais par contre, malgré cette mixité des effectifs, on va avoir une recomposition de la division sexuée des tâches, y compris dans le cadre de l'apprentissage dans une formation professionnelle. Ça nous fait donc penser au fait que, enfin, ça nous confirme l'idée qui a été déjà montrée dans un certain nombre de travaux par le passé, que la mixité, la situation de mixité dans la formation, dans le travail, n'est pas équivalente à une situation finalement de dénaturalisation des normes sexuées. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que finalement, ce n'est pas parce qu'on met des filles et des garçons à côté, et donc on pourrait croire finalement qu'ils sont égaux puisqu'ils sont ensemble, ils ont les mêmes professeurs, ils ont les mêmes salles de classe, etc. Mais finalement, on voit qu'il y a une recomposition des normes sexuées et donc un certain nombre de résistances à... Donc mixité, en gros, si on doit résumer l'idée très simplement, c'est la mixité, ce n'est pas l'égalité. La mixité, c'est un outil, mais ce n'est pas, ça ne permet pas nécessairement une remise en question des normes sexuées. Alors, deuxième point important, c'est que ce genre d'illustration... Elles ne sont pas juste documentaires. C'est-à-dire que si je l'avais trouvé dans le fond de l'école, dans les cartons d'archives, je me serais dit « Ah tiens, c'est intéressant, peut-être si je recoupe mes sources et que je vois que d'autres sources confirment ces dires-là, on pourrait le prendre comme une source documentaire. » Mais ce qui est intéressant ici, c'est que cette source, ces illustrations, sont aussi publiées dans un contexte institutionnel, qui est le contexte donc d'une brochure de présentation. Alors vous avez sûrement... le souvenir de certaines brochures de présentation quand vous allez à des portes ouvertes ou quand vous allez à un certain nombre ou même sur les sites internet aujourd'hui, puisque c'est l'équivalent des brochures de présentation de l'époque. Et déjà, quand on voit une brochure, tout de suite, ça nous donne des éléments sur, finalement, quelles sont les orientations de cet établissement ou de cette formation. C'est tout de suite des indices qui révèlent aussi comment est-ce que la direction, que ce soit un UFR, que ce soit une école, que ce soit une formation professionnelle, comment est-ce qu'elle construit les figures de futurs professionnels. Et donc, en l'occurrence, on va voir qu'est-ce qu'il se passe en termes de genre. En fait, ce qui est intéressant, c'est que cette photographie, et la deuxième photographie que je vous ai montrée rapidement, qui est ici, donc sur la gauche, qui est donc cette fois une prise de vue à l'extérieur, c'est une sorte de mise en abîme de l'apprentissage du métier. de photographe. Puisque de fait, elle n'a pas été prise au hasard, elle a supposé un double travail de composition, d'une part par les élèves, là en l'occurrence, qui prennent des photos, donc qui sont en train de mettre en place un set de prise de vue qui est représenté sur l'image, mais aussi par des professionnels. On se doute que c'est des professionnels, ce sont des photographies qui sont bien exposées, bien cadrées, composées, qui mettent en scène eux-mêmes cette séance photographique. Donc vous voyez qu'il y a une double représentation de la photographie. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est délibérément sous la forme de ces deux images que les commanditaires de cette brochure ont décidé de représenter leur section photographique. Ils se disent « Quelle est la meilleure image possible que je puisse donner de ma formation ?» C'est celle-ci. Et finalement, que cela se vérifie ou non sur le marché du travail à l'époque ou dans les formations de l'époque, cette division sexuée, eux, c'est la façon dont ils ont décidé de représenter les choses. Alors, bien sûr, cette politique visuelle, ce qu'on peut appeler cette politique visuelle, c'est-à-dire le fait d'avoir choisi ces images et non pas d'autres, puisqu'on peut toujours, surtout dans une école de photographie, choisir d'autres images. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ça vient éclairer ce dont Françoise commençait à parler tout à l'heure, c'est-à-dire ces sortes de contradictions, ces résistances en l'occurrence, à la mixité dans les écoles techniques. En fait, on ne peut pas dire que, évidemment, le fait que sur la deuxième image, notamment, il n'y ait aucune fille qui soit représentée parmi les étudiantes, on ne peut pas dire « Ah, bah, ils excluent les filles ». Et d'ailleurs, quand on regarde les concours d'entrée, ce n'est pas du tout le cas. Il y a des filles qui se présentent et il n'y a pas de discrimination au concours. C'est-à-dire que les filles qui se présentent, en gros, sont représentées à peu près proportionnellement de la même manière au moment du concours qu'au moment de... Enfin, pour les lauréates, en gros, il y a autant dans la proportion de lauréates que de personnes qui passent le concours. Donc là, ce n'est pas sur ces éléments-là que ça joue. En revanche, c'est plutôt sur la projection des élèves que ça va venir jouer. Ce qui est intéressant, c'est que cette politique visuelle vient en contraster en fait, avec les textes qui sont dans cette même brochure et qui, eux, mettent en avant la mixité comme étant un élément très positif de l'école. Notamment, alors, deux éléments. D'une part, quand ils s'adressent aux futurs étudiants, ils appellent cette page-là « Conseil aux jeunes gens et aux jeunes filles ». Donc, on voit qu'il y a la conscience et même peut-être la volonté d'accueillir aussi des étudiantes. Et puis ensuite, la mixité est mise en avant même comme un trait de la modernité de l'école, comme un facteur d'attractivité de l'école. Je vous cite... quand je lève la main, ça veut dire que je cite, la présence d'étudiants des deux sexes, l'âge des élèves qui ne comporte pas de limite supérieure, le caractère même des études, tout cela crée l'ambiance particulière aux grandes écoles où sont donnés à la fois un enseignement des arts et des métiers. Donc là, vous voyez que la mixité, elle est au contraire mise en avant par la direction de l'école. Elle est vraiment, elle semble être appelée de ses voeux par la direction de cette école. Et en même temps, il y a une invisibilité totale d'élèves de sexe féminin sur une des deux photographies qui est censée le mieux représenter cette section photographique. Et donc, on voit qu'est-ce que ça veut dire, ce genre de contradiction. Ça veut dire qu'il y a une absence de conscience, finalement, des enjeux spécifiques qui sont liés à la mixité. Donc, il n'y a pas de résistance absolue à la mixité. On veut des jeunes filles, mais on ne fait pas forcément, on n'a pas forcément... la conscience du besoin finalement de volontarisme, on sait aujourd'hui que mettre des filles et des garçons ensemble, ça ne suffit pas pour qu'il y ait une situation d'égalité, finalement, c'est des contradictions qui vont être assez... qui apparaissent très fortement quand on compare justement cette politique visuelle avec les discours qui sont véhiculés. Et c'est quelque chose qu'on retrouve, là, c'est un exemple très concret, je voulais vous montrer une étude de cas très concrète et du coup très spécifique, mais c'est quelque chose qu'on retrouve au niveau national, par exemple, en 1966, donc quasiment la même année que cette brochure, il y a un décret ministériel qui, pour la première fois dans l'histoire de l'éducation nationale, va statuer sur le fait que beaucoup de secteurs sont quasiment exclusivement masculin, et notamment beaucoup de formations qui mènent à un certain nombre de secteurs techniques et industriels. Donc, pour la première fois, on a une circulaire qui va justement prendre position par rapport à cette question-là et qui va essayer d'encourager, se destiner donc aux professionnels de l'éducation et qui va essayer justement d'encourager les jeunes femmes à investir ces métiers dits masculins, dont la photographie industrielle fait partie, et d'ailleurs elle est mentionnée dans les secteurs dans lesquels il faudrait encourager davantage de femmes à entrer. Et en même temps, en même temps que ce discours finalement ministériel qui est très proactif en direction des jeunes femmes et de cette diversification des carrières possibles. Quand on regarde à la même année ou la même décennie, les supports visuels qui proviennent de l'État, et même d'ailleurs parfois les discours, là cette fois aussi, parfois aussi très explicites, hein, qui sont aussi des discours sous forme de texte, on va voir au contraire des découragements de certaines orientations non traditionnelles. Je pense par exemple, alors je vais vous montrer du coup à cette revue à venir, qui est la grande revue d'orientation professionnelle qui s'est développée dans l'après-guerre et qui est donc vraiment un référent à la fois pour les conseillers d'orientation professionnelle, mais aussi pour les parents, pour les professionnels de l'éducation de manière générale. Et ce qui est intéressant, c'est que cette couverture de 1967, c'est la même date que la brochure que je vous ai montrée tout à l'heure. Cette brochure, donc ce numéro spécial de la revue à venir, il est donc sur les carrières féminines. Donc déjà, le fait même de proposer un numéro sur les carrières féminines, a priori, vient un petit peu discréditer l'idée qu'il n'y aurait pas de carrière féminine spécifique. Donc vient déjà un peu mettre en question cette absence de distinction, soi-disant, qu'il faudrait faire dans les carrières entre les filles et les garçons. Et puis, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que la photographie est très présente dans cette couverture, puisqu'on voit qu'il s'agit peut-être que... certains d'entre vous qui sont quand même, je pense que plusieurs d'entre vous, si j'ai bien vu vos têtes, doivent être de la génération qui ont peut-être connu encore les planches contact. Donc là, vous voyez qu'à l'arrière, on a des planches contact. Donc c'est vraiment cette idée que cette jeune fille qui se projette dans l'avenir, dans son orientation future scolaire et professionnelle, elle a beaucoup de possibilités. Hein, cette planche contact, c'est une sorte de myriade d'identités comme ça, futures, qui pourraient s'offrir à elle. En termes d'avenir professionnel. Et en même temps, quand on regarde les trois pages qui sont consacrées à la photographe, et donc parmi ces carrières, à une carrière justement spécifiquement dédiée à la production d'images, on voit que les carrières qui sont encouragées sont très peu les carrières prestigieuses. Elles sont beaucoup les carrières de petites mains de l'industrie, de petites mains techniques. Et que finalement, tout ce qui est grand reporter, etc., on dit en gros aux jeunes femmes, il ne faut surtout pas rêver trop, c'est un secteur qui est relativement réticent à la présence de femmes, donc attention, qui est vraiment dans ce double discours, hein, qu'on voit, assez contradictoire, sur la mixité. Alors, en gros, quelle conclusion on peut faire de cela ? Déjà, on voit que choisir des sources iconographiques, parfois, c'est se donner les moyens d'approfondir une perspective genrée sur l'histoire de la formation professionnelle. Alors, bien sûr, en complément de sources, comme on l'a vu ici, hein, d'entretien, de sources écrites, mais en tout cas, elles viennent souvent éclairer des points aveugles des archives et vont véhiculer, sans qu'elles soient toujours formulées, et c'est ça qui est intéressant avec les images, des conceptions contemporaines, que ce soit les conceptions du genre, que ce soit les conceptions de la classe sociale. Donc, elles vont vraiment venir justement nous renseigner sur un certain nombre d'impensés, comme le disait tout à l'heure Françoise, et elles vont en même temps nous renseigner sur un certain nombre d'éléments documentaires, par exemple sur la division sexuée du travail, mais aussi sur le quotidien scolaire. Pour ce qui est de l'histoire de la formation des photographes, ce qui m'intéressait évidemment plus spécifiquement, c'est que ces images sont intéressantes dans la mesure où les photographes, par essence, sont des... Et en plus, les photographes de l'école, qui sont donc des formateurs de photographes, par essence, sont des professionnels de la culture visuelle et donc maîtrisent l'ensemble des paramètres de la production, de la circulation iconographique, depuis la mise en scène jusqu'au cadrage, depuis le savoir-faire technique jusqu'aux formes symboliques sur lesquelles ils sont tout à fait au courant des enjeux aussi symboliques qui sont véhiculés par les images. Et ils sont aussi maîtres de la sélection éditoriale jusqu'au choix du rendu visuel final. Et donc, en cela, on ne peut pas les suspecter d'avoir produit par hasard des formes, des contenus, des rapprochements. Et donc, c'est intéressant aussi de regarder ce genre de production iconographique sous cet angle-là, puisque ça nous éclaire aussi sur leur façon d'exercer leur métier. Et ça nous montre la façon dont ils cherchent à montrer leur formation en entrecroisant bien souvent, mais c'est le cas, ça a été montré par exemple par Juliette Rennes notamment, les normes de genre et les normes de professionnalité. C'est-à-dire le fait que on construise une figure de professionnel qui soit très largement fondée sur des critères de genre. Et puis le dernier apport de ces sources visuelles, c'est aussi, et ça je vais me permettre du coup de conclure sur sur un autre type d'image dont je n'ai pas du coup beaucoup parlé, mais sur lesquelles on pourra peut-être revenir dans le cadre des questions, parce que je crois que j'ai presque écoulé mon temps. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est aussi de comparer ce genre d'images, qui sont donc des images qui ont été choisies par les institutions et diffusées par les établissements ou par un ministère, etc., avec des images qui ont été produites par les élèves eux-mêmes. Alors, ce n'est pas toujours le cas, mais évidemment, chez les photographes, on a de la chance, puisqu'on a davantage accès à ça. C'est aussi le cas dans les formations d'adultes, où c'est un peu plus possible d'imaginer des fonds privés. Et donc, quand moi, j'ai travaillé avec des anciens, anciennes élèves, ça m'a permis, justement, dans le cadre des entretiens, d'avoir accès aussi à des sources personnelles qui permettent aussi de voir quelles ont été les contestations de ces discours, parce que là, je vous ai montré finalement seulement un aspect qui est l'aspect quelles sont les politiques des politiques de formation, les politiques d'établissement, mais qui vont permettre aussi de regarder de créer un autre récit finalement sur la vie dans le métier, dans les formations. Ça ne veut pas dire que ces images vont être, elles, exemptes de normes de genre, évidemment, puisqu'elles sont, elles aussi, imprégnées de la société dans laquelle elles sont, et cette société, elle est saturée par un certain nombre de hiérarchies sociales, parmi lesquelles le genre est un critère déterminant, mais elles vont, malgré tout, permettre de développer d'autres visions. Et je vais, par exemple, vous montrer cette image-là, qui est donc une image qui montre alors là c'est 10 ans avant, mais c'est dans la même école, hein, c'est le même, on n'est pas sur le même studio exactement, mais en tout cas c'est la même école, et on voit donc dans cette image qui vient d'un fonds privé vraiment la possibilité justement que évidemment les femmes n'étaient pas uniquement des objets du regard, mais aussi étaient derrière la caméra, que les garçons eux aussi peuvent parfois être assis à l'arrière et un peu moins attentifs et un peu moins engagés dans la socialisation à la pratique professionnelle. Et donc voilà, c'est juste pour venir nuancer un petit peu cette vision que je vous ai donnée et sur laquelle on aura sûrement l'occasion de revenir. Donc je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis je laisse la parole à Françoise si on est dans les temps.
Peux départager ton écran.
Oui, bien sûr. Pardon.
Voilà. Alors, merci beaucoup, hein, Vera, pour cette présentation très claire. Alors, je vais maintenant vous parler de mon travail, hein, qui va s'effectuer autour de films. Alors, je vais juste vous présenter un tout petit bout de film tout à l'heure, mais comme on a fait des essais tout à l'heure, enfin, c'est un peu compliqué. Il n'y aura pas de son, mais c'est pas grave. Je vais d'abord vous expliquer comment j'en suis venue à travailler sur un film. Et d'abord préciser qu'il s'agit, pour moi, enfin, en tout cas, je travaille sur des films de non-fiction, c'est-à-dire bon, soit des documentaires, soit des reportages. Je vais vous dire pourquoi j'en suis venue à cela. J'ai fait ma thèse sur des institutions de formation d'adultes, le QCES et l'INFA de Nancy, le Centre de coopération économique et sociale, et l'INFA, l'Institut national pour la formation des adultes. Et au début de ma thèse, quand je cherchais des documents, des archives, etc., j'ai vu un film qui avait été réalisé Nancy, en 1966, dans cet organisme de formation. C'était un film de très mauvaise qualité, une vieille vidéo, une VHS, hein, pour ceux qui savent ce que c'est encore, une grosse cassette, là, d'un très mauvais état, mais qui m'a marqué et qui m'a poursuivi tout au long de ma recherche sur cette histoire, mais que je n'ai pas travaillé en tant que telle à ce moment-là. Bon, et puis après, ben, j'ai fait ma thèse, etc., j'ai pensé à autre chose, et j'ai continué ma carrière, etc. Et puis quand même, hein, ce film, il restait quelque part dans ma mémoire, et à un moment, j'ai eu envie de le montrer à mes étudiants. Et je me suis mis à la recherche de ce film. Alors, je ne vous dis pas toutes les péripéties, mais ça a été très compliqué. Bon. J'ai fini par retrouver le film. Et en le revoyant, effectivement, je me suis dit, mais ce film est très intéressant. il faut absolument que j'en fasse quelque chose. Et dans mon idée, c'était de... Alors, il faut quand même que je vous dise un peu ce que c'est que ce film. C'est un film de 45 minutes qui a été tourné en 66, donc en noir et blanc. Il a été tourné en 16 mm. C'est un film qui donne la parole à des auditeurs de cours du soir, hein. Donc, c'est-à-dire des personnes en reprise d'études qui viennent passer 3 soirs par semaine plus le week-end à suivre des cours pour pouvoir avoir un diplôme qui va leur permettre de rentrer dans une école d'ingénieurs et donc se perfectionner et peut-être acquérir une promotion dans leur travail. Et il est très intéressant ce film parce que vraiment, il donne beaucoup, beaucoup la parole aux auditeurs. Hein. Et alors, mon idée première, c'était de repartir à la recherche de ces personnes qui étaient interviewées dans ce film et de les refilmer à 30 ans d'intervalle. Malheureusement, j'ai très vite laissé tomber cette idée farfelue parce que le temps passe tellement vite que les gens vieillissent et que de toute façon, je n'avais même pas le nom des personnes qui étaient dans ce film, donc je ne vois pas comment j'aurais pu faire pour les retrouver. Même, j'aurais pu en retrouver peut-être une ou deux, mais enfin pas plus. Et puis, bon, malheureusement, beaucoup seraient disparus. Bon. Et voilà. Donc, au lieu de faire un film, j'ai fait mon deuil. Et j'ai fait à la place une HDR, c'est-à-dire une habilitation à diriger les recherches et un bouquin. Ce qui est une manière un peu détournée de revenir sur un projet d'image. Alors, avant de vous en dire un peu plus sur ce film, ma perspective est archéologique, selon Michel Foucault. C'est-à-dire que pour moi, je prends ce film comme, je cite, une œuvre traversée par un savoir. Là, je cite Foucault. Traversée par un savoir. Alors, quel savoir? Eh bien, le savoir d'une époque sur une activité sociale qui, là, est l'éducation des adultes en train de s'institutionnaliser. Mais au-delà de ce savoir sur l'éducation des adultes, il y a aussi le savoir sur le savoir. Puisque c'est bien l'idée qui m'intéresse, moi, dans l'éducation des adultes, c'est le questionnement sur le savoir des adultes. Et ça, le savoir aussi de toute une époque, c'est-à-dire qui devient accessible de beaucoup d'autres manières à beaucoup plus de gens. Hein, on est dans les années 60, la télévision entre dans les foyers massivement, pendant toute cette décennie, et avec cette télévision, un accès complètement nouveau pour certaines personnes à des informations, mais pas que des informations, à tout type de savoir, qui vient les toucher au sein même de leur foyer. Et le savoir des sciences humaines et sociales, qui sont alors en plein développement, hein, et qui devient aussi beaucoup plus accessible à des publics nouveaux, puisque de nouveaux étudiants, de nouveaux étudiantes entrent massivement à l'université dans cette période-là, à la suite de l'explosion scolaire du début des années 60. Donc, un foisonnement, hein, autour, une ébullition autour de qu'est-ce que c'est que le savoir, etc. Alors, la perspective archéologique, c'est aussi prendre le film comme un objet et puis aller chercher ce qui fait que cet objet est advenu, hein, c'est-à-dire qui l'a voulu, qui l'a financé, qui a voulu en faire quelque, qui a voulu y mettre quoi dedans, et qui a participé, etc. Donc là, il y a 3 institutions qui y ont participé, hein, le QCES dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'organisme de formation, le service recherche de l'ORTF qui a produit le film et une 3e institution qui l'a financé, c'est la délégation générale à la promotion sociale, c'est-à-dire l'organisme étatique qui était chargé à l'époque de la coordination des actions de formation d'adultes. Autre perspective théorique, et donc là je m'appuie sur Marc Ferro, qui a écrit entre autres Cinéma et Histoire, et il dit que les images, alors lui il travaille sur toutes sortes de films, hein, des documentaires comme des fictions, et pour lui c'est la même chose, hein. Enfin, elles ont, pour lui les films de fiction comme les films documentaires informent souvent bien plus sur ceux qui saisissent les images et ceux qui les diffusent que sur ce que montrent les images elles-mêmes. Et il dit aussi que les films sont toujours débordés par leur contenu, c'est-à-dire que en fait, les images montrent bien plus que ce que les gens voulaient y montrer. Troisième perspective théorique, et bien entendu, c'est les questions de genre, dont Vera vous a quand même bien parlé, et aussi pour moi, donc, des analyses en termes de rapport au savoir selon une approche socio-historique. Alors, je vais maintenant faire quelque chose de périlleux, c'est-à-dire que je vais essayer de trouver quelque part sur mon ordinateur le film. Alors, un tout petit bout de film que je vais vous montrer, un tout petit bout de ce film qui dure 3 minutes. Alors, sauf que je l'ai perdu. Ça m'aurait étonné. Où l'ai-je mis? Alors, attendez, je ferme ça. Voilà. Alors, stop. Il faut que je fasse un partage d'écran. Alors, que je revienne là. Ça, c'est les... C'est merveilleux. Mais ça serait en direct, on aurait d'autres problèmes techniques, hein, mais on en aurait aussi. Donc, partage d'écran. Alors, mon écran. Voilà. Est-ce que vous voyez une image? Voilà. Donc, il n'y aura pas de son parce que c'était trop compliqué. Et parce que, comme je le voulais à l'intérieur, voilà. Alors, je vais vous expliquer ce dont il est question. Ce jeune que vous voyez, c'est un jeune travailleur, il travaille à l'EDF, hein, et dans le film dont je vous parle, il y a des séquences qui sont tournées dans l'organisme de formation, et en fonction de ce que les auditeurs, parce qu'on les appelle des auditeurs, c'est-à-dire les personnes en formation, en fonction de ce qu'elles disent, eh bien, on va les suivre et on va faire une séquence de tournage soit sur leur lieu de travail, soit chez eux. Et là, il est filmé chez lui. Et bon, ben, il explique que ben, voilà, il a choisi de s'inscrire à cette formation. Il en a parlé à sa femme en lui expliquant que ben, voilà, ça serait 10 années de sacrifice. Enfin, dit-il, pas tout à fait de sacrifice, mais enfin, de projet partagé. Voilà. Et ça serait difficile. Et alors, l'intervieweur dit, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, madame? Il dit, je n'étais pas trop d'accord, mais bon, vas-y, essaye, on verra. Bon, pour les soirs, j'étais vraiment pas trop d'accord, mais de toute façon, je savais qu'il ne serait pas resté sans rien faire. Alors, lui dit, oui, moi, je ne serais pas resté sans rien faire, j'aurais fait de la musique, etc. Voilà, donc il s'exprime différemment là-dessus. Et puis, lui, ensuite, dit, mais moi, ça m'a épaté qu'on puisse faire des cours comme ça sans débourser un centime. Je ne pensais pas que c'était possible, donc bon. Et bientôt va arriver la question qui tue. Non, c'est pas ça, pas la question qui tue. Mais l'intervieweur va dire, mais est-ce que ça vous arrive de parler de vos cours à votre femme? Alors, elle lui dit oui, elle dit presque tous les soirs. Donc, presque tous les soirs, il va expliquer à sa femme ce qu'il a vu pendant les cours. Et il va lui expliquer de manière un peu plus simplifiée, plus schématisée, enfin. Bon. Alors, il demande des exemples. Oui, il va présenter des tableaux. Par exemple, il va lui parler des tableaux parce qu'ils ont vu des tableaux. Puis, après, il va lui parler des nucléons, des photons, enfin, des choses très utiles dont on parle beaucoup. Et il va lui expliquer, voilà, de manière un peu schématisée, de manière à ce qu'elle comprenne. Et voilà, donc L'intervieweur lui dit, vous estimez que c'est un devoir de lui faire cours comme ça, du non, mais bon, c'est toujours bon d'apprendre quelque chose. Et puis, bon, je pense aussi que ben, si j'échouais dans ma formation, si je n'allais pas au bout, ben, ça serait un échec et ça serait, je faillirais à mon devoir d'homme, à mon devoir de chef de famille vis-à-vis de ma femme. Et il reprend sur le fait que, bon, il explique. S'il explique bien, si sa femme a bien compris, eh bien, elle aura au moins appris quelque chose. Et là, elle va le reprendre et elle lui dit, tout à la fin de la séance, oui, mais aussi, si je comprends, c'est que tu m'as bien expliqué, c'est alors que c'est parce que tu as bien compris. Voilà, donc je vais vous laisser jusqu'à la fin, il reste 30 secondes et vous allez voir la séquence se termine sur Madame avec son sourire illuminé. Voilà, et elle a rétabli les choses. Alors, c'est tout. Alors, cette séquence, on peut bien entendu la regarder d'un point de vue de ce qu'elle raconte. Et évidemment, de ce qu'elle raconte, elle dit vraiment des choses très intéressantes. On peut la regarder aussi en tant qu'image, en elle-même. Alors, l'image, vous voyez là un homme et une femme, un couple, dans des positions, des statures tout à fait différenciées. Monsieur en manspreading, hein, les jambes complètement écartées, hein, l'étalement du masculin. Madame avec ses genoux très serrés. Et elle est très... très rétrécie, hein, beaucoup plus petite sur l'image. Donc, à la fois dans le discours et à la fois dans l'image, elle est minorée. Elle est minorée dans le discours parce que quand même, il dit vraiment franchement qu'il va lui expliquer les choses de manière très précise et simplifiée pour qu'elle puisse comprendre. On peut voir le décor, c'est chez eux. Donc là, il s'agit d'un décor des années 60, mais on voit bien que ce n'est pas un décor petit bourgeois. On est vraiment plutôt dans les goûts sociaux des classes plutôt moyennes, ouvrières moyennes, avec un canapé de la plus grande modernité. On peut voir aussi les lunettes, les coupes de cheveux et la manière dont sont habillés les gens, ce qui nous renseigne aussi sur une époque et sur une ambiance. Et puis, il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Et c'est aussi tout à fait intéressant. Et ce qu'on ne voit pas, c'est ce qu'il y a derrière la caméra, c'est-à-dire l'intervieweur, qu'on ne voit quasiment jamais. Et c'est un choix de réalisation. Et ce qu'on ne voit pas, surtout, c'est les spots monstrueux, parce que bon, pour à l'époque, la télévision, c'était des gros machins. Hein, c'était alors, ils arrivaient avec des vérins, des machins, ils accrochaient le plafond, ils mettaient des spots, c'était monstrueux. Hein. Donc là, ils ont l'air d'être tranquilles dans leur petit salon. Alors ça, je vous dis ça parce que j'ai interviewé l'intervieweur. Qui m'a raconté que bon, ils arrivaient comme ça, ils faisaient sauter les plombs 50 fois, ils déménageaient tout le salon pour mettre leur truc, et puis après ils demandaient aux gens bon, bah, expliquez-nous de manière tout à fait spontanée comment vous vivez les choses. Donc c'est intéressant aussi de ne pas oublier les contraintes techniques qui font que eh bien, la spontanéité n'est peut-être pas là où on pense qu'elle est. Et puis, alors, on peut analyser le contenu, on peut analyser l'image, et puis on peut analyser la place de la séquence dans le film. Et je vous disais, donc, ce film, bon, ça dure 45 minutes, hein, là, on avait 3 minutes. Hein. Il y a, dans ce film, 3 séquences qui sont tournées chez les auditeurs en compagnie de leur épouse. Donc, ça, c'est la première épouse. Et il y a d'autres séquences sur le lieu de travail, etc. Mais ce qui est intéressant, et ça, c'est vraiment, vraiment au cœur de ce questionnement sur qu'est-ce que c'est que ce film, c'est que les épouses, le thème des épouses, c'est l'intervieweur qui est la même. C'est pas les épouses. Il leur demande à un moment, quand ils sont en groupe, en collectif au centre de formation, mais il leur dit, mais il y en a beaucoup qui ont eu des problèmes avec leurs épouses du fait qu'ils rentraient trop tard, qu'ils ne pouvaient pas s'occuper des enfants, etc. Et c'est lui qui amène cette thématique des épouses. Et donc, ce film, ce choix de filmer chez les gens, c'est réfléchi. C'est réfléchi parce qu'il y a à l'époque toute une réflexion pédagogique sur qu'est-ce que c'est qu'un adulte qui apprend. Et un adulte qui apprend n'apprend pas, dit-on, comme un enfant à l'école. Bien entendu, il a sa propre vie familiale, de couple et d'amis, de cercle d'amis, et aussi ses équipes de travail. Tout ce qu'il apprend doit pouvoir être partageable, utilisable dans son cercle, dans le cercle qui l'entoure. Et bien entendu, il y a toute une rhétorique autour de l'épouse. L'épouse qui doit accompagner le jeune ou l'homme en formation pour qu'il n'abandonne pas ses études. Alors pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'abandon. Hein, c'est 6-7 années de cours du soir, hein, c'est 6-7 années de cours 3 fois par semaine, plus les week-ends, c'est quelque chose d'énorme, hein, d'inhumain, dit-on à l'époque. Et si l'épouse n'est pas là pour soutenir, la personne en formation dans son projet de promotion, il va échouer, hein, en cours de route. Il va arrêter. Alors, ce qu'on voit bien dans tout cela, c'est que dans toute cette rhétorique, soit mise en image ou pas, d'ailleurs parce que c'est le même qu'on trouve dans les textes, hein, c'est que les femmes qui pour tant travaillent déjà assez grand nombre à cette époque-là, ne sont jamais considérés comme potentiellement public de formation. Et c'est ce qui est montré à travers ce film. Et alors, il ne dit pas que ça, bien entendu. J'aime beaucoup ce film parce que, mis à part ce gros lapsus, comme dit encore Ferraud, hein, ce lapsus que montrent tout d'un coup les images, le lapsus des sociétés qui dit, la société dit, voilà, on développe la formation des adultes, c'est pour tout le monde, allez-y. Sauf qu'on a oublié que 50% de la population était peut-être du sexe féminin et que beaucoup d'entre elles travaillent et que beaucoup d'entre elles aussi pouvaient, et d'ailleurs, se former. Certaines le faisaient déjà, mais à l'époque, on n'avait pas de statistiques sexuées, donc les pouvoirs publics ne savaient pas quel était le pourcentage de femmes qui poursuivaient des cours du soir. Voilà. Bien, donc je termine avec ce film-là pour vous présenter autre chose maintenant. Puisque ce film a conduit à réfléchir quand même beaucoup à ce que les politiques de formation transmettaient, enfin, en tout cas les responsables des politiques transmettaient comme discours vis-à-vis d'un public féminin. Et j'ai ensuite étudié d'autres films. Alors, ça, c'est une recherche que j'ai entreprise il y a un peu moins longtemps. Je me suis intéressée à tous les films qui sont passés à la télévision fin des années 50 jusqu'aux années début des années 1970 et qui montraient des personnes en formation. Alors, pourquoi cette période-là? Ben, c'est vraiment la période où les choses s'institutionnalisent pour la formation des adultes. Et je voulais vérifier si, au milieu des années 60, comme on le voit dans les archives, la question de la formation des femmes émerge. Elle émerge exactement en 1966. Alors là, je n'ai pas le temps de détailler pourquoi, mais je pourrais vous lire si vous voulez, si vous posez des questions, mais elle émerge en 66 à travers en France, à travers des organisations qui sont menées, des cercles d'études qui sont menés spécifiquement sur la formation féminine. Donc je voulais voir si à travers les productions audiovisuelles, on voyait ce virage d'une formation qui s'intéressait tout d'un coup aux femmes. Et alors, j'ai cherché un certain nombre de films, j'en ai trouvé 200 qui sont passés à la télévision et qui montraient des personnes en formation. Sur ces 200, j'en ai retenu qu'un petit nombre, enfin une cinquantaine, parce que, alors je ne vous explique pas comment j'ai construit mon corpus, parce que c'est un peu compliqué, que je n'ai pas trop le temps, mais ce n'est pas facile de construire un corpus d'images. J'ai cherché dans les films ceux qui montraient des images de femmes en formation. Et j'ai trouvé quelques-unes de ces images. Alors là, je ne peux pas, si, à partir du début, voilà. Quelques films qui montraient des images de femmes en formation. Et j'ai surtout remarqué qu'il s'agissait de recyclage, qui s'appelait alors recyclage féminin. Et que petit à petit, dans le vocabulaire utilisé, ce recyclage féminin va devenir un recyclage des femmes. Mais surtout, ce que je constate à travers ces films qui montrent des femmes en formation, c'est qu'il ne s'agit que de formation féminine, c'est-à-dire que de formation visant uniquement des femmes, et même uniquement des femmes au foyer, c'est-à-dire des femmes qui ont quitté leur travail pendant des années pour s'occuper de leurs enfants et qui veulent revenir sur le marché du travail. Et ces formations qui sont mises en place pour elles, bon, bien sûr, on leur fait acquérir un métier, comme dans toute formation professionnelle, mais il y a aussi l'idée qu'il faut les réhabituer, qu'il faut les sortir de leur dépression de femmes au foyer. On est en pleine réflexion sur le syndrome du nid vide, comme quand les enfants partent et que les femmes se retrouvent à ne plus savoir quoi faire de leur temps. À ce moment-là, elles rêvent de revenir sur le marché du travail parce qu'elles sont, elles sont trop isolées, elles sont en difficulté psychologique. Et donc, ces formations d'adultes qui sont mises en œuvre pour elles ne sont pas tout à fait les mêmes que les autres actions de formation qui sont faites pour les adultes hommes ou les adultes en général, c'est-à-dire la formation neutre, le masculin neutre. Elle a vocation à les tirer. Donc, il y a un aspect psychologique aussi, un aspect de soins psychologiques pour les tirer de leur isolement, de leur image de soi dévalorisée, etc. etc. Voilà, donc, à partir… Alors, évidemment, là, il faudrait décrire chacun des films et c'est absolument pas possible, mais je peux vous indiquer un article qui va bientôt paraître là-dessus. Et là, je rentre dans le détail de comment je travaille à partir des séquences, plutôt des séquences. Qu'est-ce que je regarde, la prise de parole. Alors là, ce sont que des films. Il n'y a que des femmes, mais il y en a d'autres où il y a quelques femmes au milieu d'hommes. Je vois que la prise de parole des femmes est 10 fois inférieure à celle des hommes et que souvent, les thématiques qui sont abordées sont très différentes dès lors que la personne qui interviewe et qui filme s'adresse à des hommes ou à des femmes. Voilà, donc je pense terminer là-dessus parce que j'ai épuisé mon temps et que ça passe très vite. Mais bien entendu, je peux revenir à la suite de vos questions sur quelques détails et terminer juste pour dire tout de même que de plus en plus, comme l'a dit tout à l'heure Vera, les images sont utilisées dans les recherches en sciences humaines et sociales. pas seulement d'ailleurs des photographies ou des films, aussi la bande dessinée, aussi des peintures, etc. Et qu'il y a là beaucoup de recherches à mener hein, à partir de ce type de sources, parce que alors, ces sources ne donnent pas les mêmes informations que les écrits. Il faut bien entendu les croiser, hein, ces sources avec d'autres, mais elles sont véritablement spécifiques, elles renseignent sur d'autres plans. Elles font aussi intervenir de l'émotion, ce qui permet peut-être d'entrer en plus en empathie aussi avec ce que les personnes de cette époque-là ont vécu et nous permet de mieux comprendre hein, un quotidien qui, alors, n'existe pas. Plus tout à fait pareil maintenant, qui nous permet d'entrer plus facilement dans l'histoire d'une période. Voilà, j'arrête là. Donc, je laisse la parole à Gladys pour animer les débats.
Moi ou n'importe qui, ou Valentin ou Fabien, je pense qu'on peut tous intervenir. Alors habituellement en présentiel, on fait une petite pause et puis ensuite on met les étudiants en groupe pour qu'ils aient le temps de réfléchir un peu aux questions. Là forcément c'est un peu compliqué de vous mettre en groupe. Est-ce que vous voulez prendre peut-être 5 minutes de réflexion pour à la fois vous reposer, aller boire un verre, etc. Et puis en même temps réfléchir aux questions que vous pourriez poser à Vera et Françoise. Je sais pas, Valentin, Fabien, vous en pensez quoi?
Peut-être qu'on peut faire une pause de 5 minutes.
Donc on fait une petite pause
hein, comme ça, on élabore un peu.
Il est 40, donc à 45, on revient. Et, oui. Et en faisant votre pause, vous réfléchissez aux questions que vous pouvez poser.
Que vous rêvez de poser. Voilà.
Alors à tout de suite.
Suite. Bon appétit.
Merci, c'était un peu la course entre Paris 8 et ici.
Oui, parce que tu as... Oui, t'es
Oui, je cours
revenu.
avec les L1 en présentiel à Paris 8. Après, j'ai vu des étudiants de master. Et après, je suis rentrée en courant chez moi, j'ai pas mangé. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, enfin si vous avez vu, mais a priori, on pourrait peut-être reprendre les cours en présentiel pour les masters. Tu as vu, Jean-Christophe a envoyé un
J'ai pas
mail.
vu.
Et il faut qu'on signale qui serait prêt à revenir en présentiel. Il faut déjà que nous, on signale en tant qu'enseignants. Après, j'imagine bien que beaucoup d'étudiants sont prêts à revenir. Et en particulier pour alors bon, pour le séminaire ETA Levé, on est très nombreux, donc je ne sais pas trop comment ça peut marcher.
Oui, puisque oui, puis en fait, on a deux interventions. Au moins celle avec Yves Cohen et avec Bernard Charlot qui se font à distance du coup,
Oui, ça
parce qu'ils
c'est
sont, ils
sûr.
sont même pas en France.
Ouais. Mais en tout cas, certaines, on pourrait les faire peut-être en présentiel avec ceux qui veulent y être. Et par contre, pour les cours où vous êtes moins nombreux. Éventuellement un séminaire de méthodologie, etc. Il est possible de les faire en présentiel si on fait la demande.
Il y a quand même plusieurs choses, si je puis me permettre. Moi, ça me paraît complètement insensé, ce genre de truc. Il y a quand même des règles, notamment des règles de jauge générales sur l'université et par salle de classe, quand même.
Mais c'est pour ça
Donc,
qu'on doit faire la demande à Jean-Christophe. Et
ouais.
après, ils établissent, on doit envoyer d'ici la fin de la semaine qui veut retourner à l'université. Et en fonction des jauges de salles et du nombre de personnes qui souhaitent retourner à l'université, ils vont établir qui peut et qui ne peut pas.
Ouais, ben moi j'y
Nous,
crois
on
pas.
est censé faire remonter les demandes.
De toute façon,
Mais par ailleurs, il faut attendre demain soir hein, quand même.
demain, qu'est-ce qui se passe demain soir déjà? On a encore une
Ah,
annonce, c'est
demain
ça?
matin, il y a
Encore?
un conseil de guerre là.
Oui.
Et vraisemblablement, il y a un reconfinement qui pointe son nez quand même de 3 semaines, voire 4 semaines.
D'accord.
On verra bien. Ça dépend du nombre de lignes de coke que Macron se met dans le nez, ça peut changer, mais. Pardon, excusez-moi.
Après, je pense qu'il a quand même un peu peur des suicides d'étudiants. Ça fait pas très bon genre. Donc, je pense qu'il y aura quand même quelques exceptions pour.
Toute façon, les mesures sont d'une telle cohérence qu'on peut s'attendre à tout.
Ouais.
Donc, de toute façon, légalement, il est déjà possible de se retrouver, moi c'est ce que je souhaitais faire de toute façon, de se retrouver à peu, par exemple, pour des suivis. C'est-à-dire de se retrouver avec un 9 ou 10, ça c'est tout à fait possible, en respectant l'ensemble de précautions. Disons, voilà, bon, je pense que la difficulté, comme l'a très bien souligné Barbara Stiegler récemment dans son dernier ouvrage, c'est effectivement d'être pris sans cesse entre cette espèce de tout ou rien, quoi. C'est-à-dire, ou reconfinement intégral et on est complètement paniqué et personne ne sort plus, ou être dans des trucs où on dénie l'existence de. La maladie, etc. Donc c'est et comme les choses risquent de durer longtemps, à mon avis, il faut se préparer, il faut déjà, même pour nous, s'organiser de façon à savoir un peu comment est-ce qu'on va faire cours dans les prochains mois. Voire, moi, je suis assez pessimiste même par rapport à la rentrée prochaine, parce que moi, je ne crois absolument pas en une molécule, en un vaccin miracle. Si, ouais. Je veux bien être démenti, mais je ne crois absolument pas en le fait que ça va partir tout de suite, cette histoire. Enfin, voilà, maintenant on sort un peu du sujet. Peut-être qu'on peut
Oui.
reprendre un peu comment dire, la séance d'aujourd'hui. Donc,
On va voir.
est-ce que des personnes veulent réagir par rapport à l'intervention de Vera et Françoise, ont des questions à poser, des remarques, des interpellations, des...
Malheureusement, on sera moins apte à vous répondre sur les confinements et autres joies.
Au moins, ce sur quoi on peut répondons.
Moi, je veux bien poser
Avez une
une
question?
question. Il faut généralement quelqu'un qui ouvre le bal, ça va dégeler la parole par ailleurs. Moi, je veux bien poser une première question. Déjà, vous remercier pour vos deux présentations. Et Vous avez l'une et l'autre insisté à plusieurs reprises sur le fait que, qu'effectivement, au travers des images, on pouvait attraper pas mal de choses. Alors ça fait aucun doute, vous l'avez montré. Et je voudrais savoir finalement de vos différents corpus, qu'est-ce que vous avez finalement pu retirer de ces corpus d'images que vous n'auriez pas pu avoir par ailleurs?
Qu'est-ce qu'on fait? On prend plusieurs questions et vous voulez répondre à plusieurs questions? On fait comme ça? Ou est-ce que vous... Oui, on fait comme ça? Alors, est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions?
Oui, moi j'ai une question. Je voulais savoir, est-ce que donc ce travail pour donc les deux intervenantes, est-ce que ce travail d'image était destiné à l'époque à conscientiser la société ou du moins une certaine classe sociale par rapport à l'avenir des femmes et également à leur importance et à leur intérêt pour et dans le travail? Je ne sais pas si je suis trop claire, mais par exemple, ce que je vais expliquer en version plus simplifiée de la question, est-ce que le travail d'image des femmes et des hommes de la société à l'époque était destiné à un public en particulier, notamment la société, ou du moins à une certaine classe sociale, afin de prendre un petit peu conscience de l'importance de la femme, de sa place dans l'avenir, de qui elle peut être et de son intérêt, de l'intérêt qu'elle peut avoir. Merci.
Moi, je me demandais, mais j'ai peut-être, ça s'adresse plutôt à Vera, mais j'ai peut-être manqué quelque chose si ta thèse allait sur l'école Louis Lumière en particulier ou sur d'autres écoles de photographie de l'époque.
Et du coup, moi, c'était plus une question, peut-être pour Madame Lahotte, par rapport à la question du savoir, du savoir chez les adultes, la question qui soit partageable et utile à quelque chose. Moi, ça me fait écho aujourd'hui dans une expérience professionnelle au Conseil citoyen où justement je vais participer à un organe de participation citoyenne parce que ça va m'être utile à quelque chose. Je ne viens pas gratuitement. Je veux une rentabilité de ma participation quelque part, justement en termes d'apport de savoir et de connaissances. Et du coup, d'une manière plus générale, comment en fait la représentation du savoir aujourd'hui, peut-être ce qui serait intéressant, je me disais, c'est là, moi je suis à Pôle emploi. Quelle représentation Pôle emploi diffuse du savoir et des formations quand, par exemple, il refuse de financer des formations universitaires? C'est quoi la dimension du savoir qu'on valorise? Et du coup, comment ça prend forme aujourd'hui dans les images? Ce serait intéressant de savoir ça.
Alors, je propose peut-être que Vera et Françoise répondent à cette première série de questions, hein, si vous êtes d'accord. Avant qu'on en prenne d'autres.
Merci beaucoup pour vos super questions. Du coup, peut-être donc pour répondre à Hélène, si je me trompe pas. Désolée, je suis passée un peu vite, mais en gros, la thèse, elle porte sur les formations au métier de la photographie. Mais il y a effectivement, comme vous l'avez pressenti un peu, il y a un focus assez important sur l'école Louis Lumière, mais je la compare notamment avec une école de retouche photographique. Qui est exclusivement dédié aux filles et qui existait dans le 15e arrondissement de Paris, qui est aujourd'hui un lycée professionnel qui s'appelle le lycée Brassailles. Donc ça m'a intéressé justement d'avoir ces deux études de cas parce que, à la fois en termes de public auquel ils se destinent, puisqu'il y en a une qui va devenir une école supérieure et l'autre qui est un centre d'apprentissage, donc ils ne se destinent pas au même type de métier. Et du coup aussi en termes d'origine sociale, des publics visés, ce n'est pas exactement les mêmes. Et puis aussi en termes, comme je vous disais, de comparer la mixité et la non-mixité, c'était deux focus intéressants. Après, j'ai aussi travaillé sur plus généralement le paysage des écoles, mais j'avais moins d'archives à proprement parler, donc c'est vrai que ça ne m'a pas permis de faire une aussi... Des focus aussi précis sur sur les formations que j'ai pu faire pour l'école des Lumières. Et peut-être, du coup, ça s'articule avec la question de l'articulation genre-classe sociale. Alors, si, je ne sais pas si c'est votre prénom. Mais du coup, effectivement, alors je ne peux pas répondre exactement de la même manière que Françoise, puisque moi, les images que je vous ai montrées ne sont pas forcément... elles ne sont pas elles-mêmes conscientes. À mon avis, les producteurs de ces images ne sont pas eux-mêmes conscients des effets, des enjeux sexués, des images qu'ils produisent et qu'ils font circuler. Donc, effectivement, je pense que ils ont... Par exemple, si on prend la revue Avenir que je vous ai montrée, là, OK, il y a vraiment une volonté de promotion des carrières féminines et une volonté de promotion de nouvelles perspectives professionnelles pour les femmes. Donc, c'est très typique de ce que Françoise décrivait exactement à la même période. On est 66-67, c'est vraiment les mêmes années. Et après, j'ai l'impression que le sous-texte de votre question, c'est aussi sur est-ce que ça s'adresse seulement à un certain public, c'est-à-dire seulement à une certaine classe sociale plutôt favorisée. Et pour ma part, ce que j'ai pu montrer, c'est qu'en tout cas, au sein de l'école Louis Lumière, il y a une volonté de plus en plus grande, et c'est pas un hasard si aujourd'hui c'est devenu une école supérieure, alors qu'à l'origine c'était une école dans laquelle on rentrait à 14 ans, qui était une école qui pouvait s'apparenter à des écoles techniques qui donc n'étaient pas forcément, qui étaient relativement valorisées dans le paysage des écoles professionnelles, mais qui étaient quand même plutôt destinées à un public modeste. Et en fait, au fur et à mesure, ce que j'ai pu montrer, c'est qu'il y a, en même temps qu'il y a de moins en moins de femmes, on peut dire, il y a de plus en plus une volonté de se distinguer socialement et notamment de former des ingénieurs, de la photographie ou des gens qui vont travailler dans une industrie, mais à des postes de cadre plutôt qu'à des postes d'ouvriers ou y compris d'ouvriers même qualifiés. Donc voilà, donc je ne sais pas si ça répond vraiment à votre question, mais peut-être ça résonnera.
En partie, merci.
Donc je prends la suite et je réponds à la question. Enfin, j'essaye de répondre à la question de Fabien, qui est une très bonne question, qu'est-ce qu'on attrape à travers les images. Alors, à la même époque, en 1964 très exactement, il y a eu des enquêtes internationales de l'UNESCO, de l'Organisation internationale du travail, etc., qui cherchaient à comprendre ce que les États membres mettaient en place pour la formation des femmes. Parce qu'il y avait eu une prise de conscience amenée par des syndicalistes sur le fait que les femmes avaient été oubliées. Et donc, certaines syndicalistes avaient porté cette question au plan international et il y a eu des enquêtes de menées dans différents États. Et la réponse des officiels français, c'est on n'empêche pas les femmes. Il n'y a rien qui empêche les femmes d'aller en formation. Et c'est vrai, il n'y a rien qui empêche les femmes d'aller en formation d'un point de vue de la loi. Sauf que dans les chiffres, à la même époque, par exemple, c'est 4% de femmes qui suivent des formations de la formation professionnelle du travail, AFPA. 4%. Donc, il y a autre chose. Alors, ce que l'on voit tout à fait bien dans les images, c'est que le discours promotionnel sur la formation ne s'adresse pas aux femmes. Ça, c'est évident. Alors, quand on fait déjà que pour amener les adultes à reprendre une formation, ce n'était pas gagné parce que à l'époque, on disait retourne à l'école, oh non, il n'en est pas question. On parlait de retour à l'école. Hein, le film s'appelle Retour à l'école, le premier que je vous ai présenté. Si il faut convaincre, c'est ça, la DGPS, la Délégation Générale à la Promotion Sociale, veut convaincre les adultes de retourner se former parce qu'il y a besoin de nouvelles qualifications, de nouvelles compétences, là. Et donc, ce n'est pas facile de les convaincre. Mais si le message ne s'adresse pas à certains de ces travailleuses, travailleurs, et ne s'adresse pas du tout aux travailleuses, eh bien, on peut penser qu'il va passer complètement à côté. Donc, ça, je pense que ce que j'attrape bien dans les images, alors, les images filmées, donc c'est-à-dire ce qui est dit et ce qui est montré, et c'est le décalage énorme entre un discours affiché de bonne volonté, des objectifs, et en fait ce qui est mis en place effectivement dans la réalité pour convaincre les travailleuses et les travailleurs d'aller se former. Et puis, et on a un basculement à cette époque-là aussi. On a un basculement, l'économie a de plus en plus besoin de nouvelles main-d'œuvre, de plus en plus qualifiées, etc. Et c'est aussi pour ça qu'on va chercher des femmes. Hein. Alors, on va arrêter de financer les mères de famille parce qu'on leur donnait un salaire, enfin, pas un salaire, mais... quand même, c'était un certain niveau d'argent, hein, donc qu'il est dissuadé, hein, évidemment, d'aller travailler sur le marché du travail parce qu'elles auraient gagné moins et elles auraient eu beaucoup de difficultés en plus. Mais petit à petit, ça va diminuer. Et donc, de plus en plus, l'économie a besoin des femmes. Et là aussi, il y a quand même ce changement de discours qui apparaît où... on a besoin de plus en plus de former des secrétaires, des dactylos, etc. Et c'est pour ça qu'on va chercher les mères de famille, les femmes au foyer, pour proposer quelque chose de spécial pour elles. Donc là, on est en phase avec le discours, mais il y a deux discours en fait, qui se superposent. Ce n'est pas les mêmes, hein. Ce n'est pas les mêmes cibles. La formation en général, c'est pour les hommes. La formation féminine, c'est pour les femmes. Et ça, les films le montrent vraiment de manière énorme. Et effectivement, je pense qu'ils n'en avaient pas du tout conscience. Hein. Comme dit Vera, ils n'en avaient pas du tout conscience. Parce que le discours, il y a un film, alors, je n'en ai pas parlé de celui-là, mais parce qu'il faut que j'y travaille plus, mais qui s'appelle « Papa retourne à l'école ». Il date de 1974. C'est une promotion, c'est un film promotionnel de la loi de 1971 sur la formation professionnelle continue. Papa retourne à l'école, ça dure, je ne sais pas, 26 minutes, il y a 17 secondes de prise de parole de trois femmes. C'est merveilleux. Donc là, et là, le discours, c'est « mais c'est pour tout le monde, y compris pour les femmes ». Donc là, c'est flagrant que les images apportent bien autre chose que le discours. Alors, sur le savoir des adultes, ça serait vraiment long. Hein. Laetitia, je suis désolée. On a un petit peu parlé quand même, hein, ensemble. Hein. Ça serait beaucoup trop long. Et comment le savoir ne paraît pas dans les images, hein. C'est comment le savoir est mis en image et comment... comment les discours produits à une certaine époque sont traduits dans des montages, dans des manières d'agencer les films, dans des manières de les diffuser. Mais en soi, le savoir lui-même, il n'est pas mis en image. Enfin, je n'ai pas réfléchi dans ce sens-là, mais je ne vois pas bien comment on pourrait mettre le savoir en image. Enfin, le savoir, les savoirs. Sauf des savoirs très particuliers. Je ne sais pas, je réponds mal à votre question, mais je ne sais pas comment y répondre, en fait.
Bah non, mais peut-être justement dans ces différences normatives et finalement sexuées, c'est-à-dire qu'on va plutôt prendre des femmes pour faire des boulots de secrétariat et de dactylo, et qu'effectivement, on va peut-être plus privilégier des garçons pour des postes de manutention, oui. Et compagnie. Enfin, il y a déjà de ça, et puis après, selon les classes sociales... Oui.
Mais en même temps, il y a des femmes qui se forment dans des cours du soir en électricité, en mécanique, en électro machin truc. Il y en a aussi. Elles sont évidemment extrêmement minoritaires, mais il y en a aussi. Mais c'est vrai que, mais c'est pas, on va faire que. C'est-à-dire que c'est à l'époque les conceptions, alors à la fois des familles, à la fois de toutes les institutions sur l'orientation des femmes, des filles après l'école. C'est tout ça qui joue. C'est pas seulement les politiques de formation. C'est beaucoup plus vaste, hein, cette ségrégation dont vous parlez là. Hein.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, là, j'ai, pour répondre aussi, si, même si la question ne s'adressait pas à moi, mais il y a un article qui va sortir dans Agone, la revue Agone, le mois prochain, qui s'appelle Orienter les filles et les garçons selon leur classe sociale. Et du coup, dans cet article, c'est justement à partir d'une étude de cas sur les revues d'orientation. Alors là, c'est à partir du cas des métiers de la photographie, toujours, puisque c'était l'objet de ma thèse. Mais du coup, en fait, ce que j'ai pu montrer, c'est que en fait, les filles vont davantage être poussées scolairement, c'est-à-dire qu'elles vont être poussées vers des métiers plus prestigieux si ces métiers sont des métiers auxquels on peut accéder par une formation scolaire, en fait. Alors que les garçons, on va davantage leur parler de métiers prestigieux, mais pas forcément si le passage vers ce métier passe par une école. Je ne sais pas si je suis claire, mais si vous voulez, je pourrais vous envoyer la référence comme ça, enfin, ou même le PDF comme ça, vous pourrez... Parce que c'est vrai que c'est une question intéressante, cette articulation très spécifique parce que souvent on traite d'un côté la division sexuelle du travail, les filles versus les garçons dans des domaines séparés, et puis d'un autre côté la question de la classe sociale et de la reproduction des classes par l'école ou par l'orientation scolaire et professionnelle, et ça permet un peu de croiser ces deux questions. Et peut-être j'en profite aussi pour rebondir sur la question de Fabien à laquelle j'avais pas vraiment répondu. Pour ma part, en tout cas, vraiment dans le processus de la thèse, j'ai vraiment dépouillé énormément d'archives institutionnelles, etc. Et en fait, j'ai eu une énorme frustration, c'est-à-dire que mon sujet au début, c'était vraiment sur le genre dans les formations et les métiers de la photographie. Et au bout d'un an et demi de recherche dans les archives, j'avais l'impression de n'avoir absolument rien trouvé. C'est-à-dire que j'avais l'impression que la question du genre était un tel impensé que finalement, à part quelques rares mentions, mais vraiment c'était extrêmement marginal en fait, à la fois dans les politiques publiques, à la fois dans les établissements, etc. Et du coup, je me suis vraiment posé la question. Je me suis dit, mais c'est moi qui ai inventé un sujet, ce sujet n'existe pas finalement. Apparemment, il n'y avait pas de problème, quoi. Et finalement, ce qui est intéressant avec les images, de même qu'avec les entretiens, j'ai vraiment mené les deux dans cette deuxième phase de la thèse où j'ai dû justement modifier à la fois les corpus et du coup les problématiques d'analyse, c'est que justement ça permet d'un coup de re-regarder des choses qui sont comme le nez au milieu de la figure, mais finalement qui ne sont pas exprimées par les institutions, qui sont bien souvent... je pense même pas que c'est du... Enfin oui, c'est une forme de déni, mais je veux dire que c'est vraiment une sorte d'impensé. Pour moi, en tout cas, il était clair que les images permettaient justement de regarder ces points aveugles de manière vraiment éclairante, quoi. Après, je pense que la problématique se pose de manière différente pour le contemporain. Mais en même temps, je pense que même pour le contemporain, parfois, ça amène justement des éclairages vraiment intéressants, quoi. Vraiment différents, ouais.
Alors, je vois qu'il y a des questions qui sont posées sur le chat. Là. Ouais, ça fait un peu comme ces espèces de tics de live qu'on voit partout là, depuis des mois, là où les gens lisent des trucs en même temps qu'ils parlent. Enfin, c'est effrayant, mais bon, on va livrer l'exercice quand même. Donc, il y a deux questions. Une question de Noli, donc la mixité de l'école ou de la formation post-elle, le problème post-elle, certains enjeux dans... Alors, je ne comprends pas bien la question. Donc, la mixité de l'école ou de la formation... pose-t-elle des problèmes et certains enjeux dans certaines sociétés, quelles réponses leur apporter? Donc c'est une question, je pense, qui porte spécifiquement sur la mixité à l'école et dans la formation, un des deux. Et une autre question donc, de Manuela, donc merci pour cette intervention. J'ai une question pour Madame Lahotte. Quelle est la place du son dans votre analyse du visuel et notamment dans votre film 45 minutes? Bonne question, parce qu'effectivement on n'a pas eu le son.
Alors, je vous ai mis le lien quand même, hein. Vous pouvez écouter le son.
Et une autre personne qui dit oui, d'accord, mais là, ok. Donc, je vais devoir quitter cette session, ça, c'est autre chose. Bon, voilà. Donc, est-ce que vous voulez répondre à ces deux questions? Moi, je ferai peut-être une petite remarque après la question.
Il y a une autre question aussi à M. Bagayogo qui veut poser une question.
Oui, pardon, je n'avais pas vu.
Excuse-moi, moi, c'est plus, je ne sais pas si je vais être dans... je vais poser une question, c'est plus pour apporter des éléments, ce que j'ai pu apprendre pendant cette séance, notamment j'ai été émerveillé par les deux interventions et puis aussi en apport à ce que disait Madame Françoise Lahotte. Je voulais dire aussi que voilà, dans le premier reportage, moi j'ai vu une dichotomie par rapport à ce qui se disait à l'époque où on parlait voilà, de mixité dans les formations et tout, où la femme voilà, pouvait venir aussi, mais sauf que dans ces périodes-là, dans ces années-là, la femme était plutôt écrasée par tout ce qui est travail ou bien travaux domestiques, c'était elle qui s'occupait de la famille et tout. Donc forcément, elle n'avait pas assez de marge. Ben ça aussi, voilà, les politiques, voilà, en lien voilà, avec la formation pour faciliter le départ, faciliter, je veux dire, le départ en formation de la femme n'était pas aussi voilà, mise en place. Donc, il y a cette analyse en filigrane, tu vois ça, quoi, qui faisait aussi que voilà, il n'y avait pas beaucoup de femmes voilà, en formation. Qu'est-ce que je voulais dire aussi oui, c'est ce que je voulais ajouter, oui, c'est ça. Voilà.
Il y a beaucoup de choses, hein, là, je ne sais pas. Il nous reste combien de temps? Sur la mixité de l'école, moi, je ne vais pas intervenir dessus, mais sauf dire très, très rapidement qu'il y a beaucoup de travaux qui montrent que la mixité, souvent, ce ne sont pas forcément les filles ou les femmes qui sont les plus gagnantes dans la mixité. Donc, bon, mais il y a eu des travaux là-dessus, mais voilà, moi, je ne vais pas, comme je n'ai pas travaillé sur cette question. Alors, par contre, la place du son dans mon analyse audiovisuelle. Alors, là, je me sers de... Enfin, j'étudie des documentaires et des reportages. Le son, c'est principalement des paroles. Alors, il y a les voix, hein, il y a les voix, il y a les manières de parler, il y a les manières de s'exprimer, il y a les accents, il y a tout ce qu'on veut, mais il n'y a pas de musique, hein, je veux dire, ce n'est pas des films, il y a, voilà. Donc, le son se limite, mais se limite. Ce sont des voix, ce sont des voix des intervieweurs et des intervieweuses aussi, et les voix, bien sûr, des personnes interviewées. Alors, je ne travaille pas sur le niveau sonore des voix, ni sur les accents. Par contre, je travaille sur la manière dont les questions sont posées. Et les questions, parfois, la manière dont les questions sont posées induisent bien sûr un certain type de réponse. Donc, parfois, il est plus important, plus intéressant de regarder les questions que les réponses. Hein. Voilà. Et alors pour l'intéressante intervention là sur les charges de famille des femmes qui les empêchent de suivre des formations, ben oui, c'était le discours de l'époque. Elles ne peuvent pas suivre des formations, elles sont accablées de charges domestiques. Sauf que c'est pas vrai aussi. Là, les films permettent de voir ça, c'est-à-dire que déjà dans les années 60, eh bien, des conjoints de femmes en formation, parce qu'on en voit quand même hein, dans certains films, dont un qui est excellent, que je vous ai montré, on a vu ensemble avec les M2 RAS, là, par rapport au savoir, il y a certains hommes qui prennent part aux tâches familiales. Hein. Ça existe, y compris à cette période-là. Et voilà, ils s'occupent des enfants quand la mère est partie suivre ses cours du soir. Ils font la cuisine. Bon, c'est elle qui a fait chauffer les plats le matin. Ils n'ont plus qu'à réchauffer, mais quand même. Voilà, donc dire d'emblée, et parce que c'est ce que disent, hein, c'est ce que dit notamment ce qui est écrit dans le petit bouquin « La promotion sociale » qui est paru en 66 ou 7, je ne sais plus. Il est dit, les femmes ne peuvent pas se former, elles ne peuvent pas se promouvoir parce qu'elles ont trop de charges, point. Voilà, c'est facile, mais ce n'est pas comme ça dans la réalité du quotidien des gens qui sont montrés dans les images. Je ne sais pas, Vera, tu voulais ajouter quelque chose hein?
Sur la mixité, c'est une longue affaire, quoi. Il y a vraiment des belles publications à vous recommander, peut-être si c'est des questions qui vous intéressent. vous pouvez m'écrire parce que c'est vrai que c'est des questions qui ont vraiment fait l'objet de recherches spécifiques. Et je vois que vous avez complété votre question en demandant qu'arrive-t-il dans une école s'il y a seulement des garçons ou seulement des filles à l'heure actuelle. Là, pour le coup, je ne peux vraiment pas vous répondre parce que je suis plutôt socio-historienne que sociologue de maintenant. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, enfin, en tout cas, voilà, ce qui a été montré, c'est que voilà, comme je le disais tout à l'heure, la mixité n'égale pas l'égalité, et donc c'est parfois intéressant de reconstituer de la non-mixité, y compris ponctuellement, et c'est ce que font d'ailleurs des enseignants parfois dans certains contextes, y compris encore aujourd'hui dans des collèges publics, voilà. Donc, mais en tout cas, voilà, après ça va un peu au-delà de mes analyses personnelles, donc je peux vous envoyer des références s'il y a besoin.
Moi, je voudrais juste dire une petite chose, si c'est à moins que Gladys veuille une question à poser, je ne sais pas, ou Fabien. Moi, j'avais une petite remarque, enfin, quelque chose que je trouvais vraiment intéressant, c'est concernant justement la question de l'usage des images. Je trouvais qu'en termes de méthode, y compris pour les étudiants, c'était très intéressant parce que finalement, ça nous pousse à nous interroger sur, voilà, on entend des discours, on entend des récits, on peut lire des choses, mais il y a d'autres sources pour accéder à ce qui se passe, à ce qui se raconte, à ce qui se fabrique, à ce qui se fait. Et c'est vrai que c'est intéressant, y compris d'étudier ces tensions, justement, entre un certain discours qui va proclamer, par exemple, certaines transformations sociales, qui va proclamer qu'a lieu des changements dans les comportements, etc. Et puis là, on a des images qui nous racontent tout à fait le contraire, qui nous racontent tout à fait autre chose, qui nous sortent justement aussi des séries statistiques, pas contre les statistiques, mais disons que ça nous sort aussi, disons, c'est une autre manière d'aller voir aussi, hein, c'est une autre manière d'aller apprendre à voir aussi les choses, parce que voir une image, c'est pas, bon, c'est pas forcément évident non plus, hein, ça s'apprend, je pense que, voilà, c'est pas les gens ici qui connaissent bien le sujet qui démentiront ça. Je crois d'ailleurs que c'est intéressant parce que la semaine prochaine, on aura une intervention de Yves Cohen. Et Yves Cohen, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé à l'histoire des pratiques, et y compris à la manière dont les représentations font agir. Et donc, je pense que là, il y a une continuité méthodologique qui est assez intéressante à suivre. Alors moi, le film, en plus, m'a évoqué un peu ces films des années 60. Je pense à Chronique d'un été, par exemple, de Jean Rouch et Edgar Morin. Qui serait tout à fait intéressant, d'ailleurs, je trouve, à analyser du point de vue du genre aussi. Alors, c'est très différent parce que là, Jean Rouch et Edgar Morin se mettent dans le film, donc c'est complètement différent. Et donc, il y a aussi une manière d'intégrer le point de vue à l'intérieur, d'intégrer le point de vue du narrateur, la personne qui est objective à l'intérieur du film. Et puis, ça nous renvoie aussi au fait que, bien sûr, ben voilà, quand on travaille en recherche, etc., il y a de multiples sources qu'on peut utiliser, des sources textuelles, des choses qu'on va observer, bien sûr, sa propre observation aussi, sa propre, ses yeux, ses oreilles, hein, les sens, le sensible. Et donc, ça, je trouve que c'est intéressant. Je ne sais pas, est-ce que finalement, ça n'interroge pas aussi la place aussi de la sensibilité par rapport à l'écriture de l'histoire, hein. C'est-à-dire, effectivement, ça me fait penser, je ne sais pas si vous serez d'accord, à toute cette lignée qui s'intéresse de près à l'histoire du sensible aussi. Hein, c'est-à-dire, moi, ça m'évoque aussi ce que le philosophe Jacques Rancière appelle un partage du sensible. C'est-à-dire que là, on voit effectivement, ces images nous racontent des choses. Voilà, il y a plusieurs façons d'accéder à l'histoire. Voilà, il me semble. Et c'est Archer qui nous parle, hein, je trouve que c'est assez touchant. Enfin, ça nous saisit quand même de façon assez, assez, assez forte. Voilà, même sans son, même à distance.
Oui, enfin, je pense que un des objectifs qui est un objectif un peu ambitieux de la thèse, mais c'était vraiment de réfléchir, parce que je trouve que c'est intéressant de penser les images effectivement comme une forme de... Enfin, Rancière, quand il parle du partage du sensible, c'est vraiment aussi cette capacité à s'approprier le monde et à en produire des représentations et à des appropriations. Et c'est vrai que je trouve ça... je m'inscris complètement dans ce sens-là, et je pense qu'effectivement... aussi, après, en tant que chercheur, chercheuse, on peut assumer aussi les sensibilités qui font que, comme je pense que c'était le tout début de l'intervention de Françoise, où tu parlais du fait même d'avoir une pratique de l'image, déjà, elle modifie notre rapport en fait à l'image en tant que chercheur, chercheuse. Et puis, je pense qu'il y a vraiment cette idée qu'on apprend à voir au fur et à mesure et que ça peut et qu'en fait apprendre à voir, c'est aussi changer de regard, quoi. Enfin, voilà. Donc c'est un peu. Ouais, je sais pas trop comment dire ça, mais parce que c'est aussi le mot de la fin, parce que j'ai une réunion à 17h30. Donc...
Est-ce qu'il y a un mot de, non pas de la fin, mais de, est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose et se taire à tout jamais après, ou... La question que vous auriez...
Plus jamais après, non.
Pardon ?
Pas se taire plus jamais après.
Mais en tout cas, c'est chouette d'avoir vos retours à toutes et tous. Et je peux vous mettre mon adresse mail, parce que j'ai eu quelques messages privés pour envoyer des documents ou des articles ou la thèse. Et du coup, je vous mets mon adresse mail comme ça, parce que je ne l'avais pas mis dans la présentation, comme ça je serai joignable. Et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions qui vous viennent ou d'autres retours. En tout cas, c'était très chouette de partager ça avec vous.
Bah, écoute, c'était aussi très sympa de t'écouter, Vera. Et je pense qu'on va suivre tes travaux avec beaucoup d'attention.
Là, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une autre intervention ?
S'il n'y a pas d'autres questions, on peut peut-être arrêter là pour la séance. En plus, j'ai une connexion très mauvaise, je suis désolée, donc moi, ça coupe beaucoup. Peut-être on n'a pas du tout parlé de la validation,
oui.
Valentin.
Oui, c'est vrai. On oublie les choses qui... Et eux aussi n'ont pas posé la question, c'est surprenant. Ils sont très détendus aujourd'hui.
C'est rare.
Il n'a pas pensé.
Oui, alors... On parle à la fois pour les M1 et les M2, alors du coup, d'ailleurs, moi je suis toujours un peu confus parce qu'on demande en fait de travailler donc sur pour les M1, si je ne me trompe pas, on demande de travailler sur une conférence, une conférence de cette année, et d'essayer de montrer en quoi ça vous apporte quelque chose au niveau de votre recherche, la construction de votre objet de recherche. Alors, il ne s'agit pas de trouver, évidemment, une conférence qui traite de votre objet de recherche, je réponds à la question qui est posée chaque année, qui sera encore reposée, j'en suis sûr. En tout cas, il s'agit de mettre au travail une conférence, et puis parce que parfois, il peut y arriver qu'il y ait des interventions qui peuvent vous inspirer sans forcément que ça ait un rapport direct avec ce que vous êtes en train de bosser. Hein. Ça arrive souvent, ça, d'ailleurs. Parfois, c'est bien de s'aérer aussi. Voilà. Et pour les M2, on demande deux conférences, hein, si je ne me trompe pas, c'est ça, hein.
Oui, en M2, c'est deux conférences. Ça peut être reprendre, par exemple, une méthodologie que vous pourriez réutiliser. Voilà. Ça peut être un concept qui a été développé par des intervenants et voir en quoi ça peut... vous pouvez le mettre au travail par rapport à vos propres recherches. Donc, voilà, ne cherchez pas une conférence qui serait en lien avec ce que vous faites, mais essayez de trouver dans les différentes conférences des éléments qui vous font penser par rapport à vos propres sujets.
Et ça peut être vous faire penser même par rapport à votre parcours de recherche. Hein. Il ne s'agit pas forcément d'essayer de créer artificiellement un lien, mais pas forcément vous forcer. Par exemple, aujourd'hui, ça peut être, par exemple, si vous travaillez sur, autour de la question du genre, bah évidemment, bah là, il y a quelque chose qui résonne immédiatement au niveau thématique, mais par exemple, ça peut être aussi au niveau de la méthode, ça peut être l'usage des images, ça peut être le thème de la formation pour adultes. Vous pouvez attraper, parce que le terme a été utilisé tout à l'heure, différents éléments, et pas nécessairement d'essayer de dire en quoi ça a changé votre recherche ou votre trajectoire de recherche, mais bon, simplement en quoi ça vous intéresse aussi, hein, au niveau de votre parcours de recherche, je pense. Parce qu'il vaut mieux être honnête un peu et ne pas créer des liens ou des articulations artificielles non plus, hein, et rhétoriques. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler de toute façon. Je pense qu'on consacrera une séance d'ailleurs à... En général, on a une séance un petit peu d'échange en général, Gladys, non ?
Oui, en général. Après, là, à distance, je ne sais pas comment on va l'organiser, mais on verra.
Disons peut-être pas 2 heures, mais bon, ça peut être possible. Si on n'a pas d'intervenant sur une séance, il faut qu'on en parle entre nous, mais ça peut paraître pertinent de se dire on prend 1 heure d'échange spécifiquement pour ça. Enfin, je ne sais pas, à voir.
Oui, oui, et puis où chacun essaye de revenir sur les différentes conférences et quels ont été les apports au niveau, par exemple, thématique, méthodologique, conceptuel, épistémologique de chacune des conférences. Ça peut être un travail à chaque fois que vous essayez de faire.
Voilà. On a bien bossé, on a bien travaillé, on est content.
C'est bien, là, on a tenu plus de 2 heures, c'est pas mal.
Hein. Encore, on peut, là, on est performant, là.
Et puis les M1, ils y sont depuis 9 heures ce matin, donc là, je pense qu'eux, ils sont...
Eux, ils sont surperformants, là, ils sont au-delà du réel. Là. Ils ont percé le miroir du son, là. Bon, en tout cas, merci beaucoup à Vera et Françoise.
Oui, merci.
Pour leur intervention très, très stimulante. Moi, j'ai trouvé vraiment très... Enfin, moi, ça m'a beaucoup intéressé, en tout cas. Voilà, donc... Et puis, on se dit à bientôt. Donc, on se dit à la semaine prochaine.
La semaine prochaine, oui.
Pour l'intervention de Yves Cohen. Qui sera donc sur comment se passer de chef aujourd'hui? Aux gens, d'ailleurs, les questions de genre, d'ailleurs, d'une certaine façon. Je ne sais pas s'il aborde cet angle-là, mais ça peut... Voilà. Bon, bah, très bon après-midi à tout le monde. Et
attends, il y a une question là dans le chat, Valentin.
Merci à vous.
Pardon?
Il y a une question dans le chat.
Ah, une question dans le chat.
Jérôme demandait s'il y aurait des groupes M1, M2 comme l'an dernier. On ne sait pas encore trop comment on va faire. Parce que c'est vrai que d'habitude, dans ce cours-là, à la fin de l'année aussi, les M1 présentent leurs recherches ou leurs travaux devant les M2. Mais là, à distance, on ne sait pas. Mais c'est vrai que c'était pas mal cette séance où les M1 présentaient devant les M2 là où ils en sont. Donc ça peut être aussi quelque chose qu'on reconstitue en sous-groupe, en visio, si on ne peut pas se rencontrer. Si on peut se rencontrer, c'est encore mieux. Alors, on a la J102 et il faut que je regarde jusqu'à combien on a le droit d'être dans la J102. Mais à mon avis, on peut être jusqu'à 35 parce que je crois qu'il y a 70 places dans la J102 au niveau des jauges. Donc voilà, si on n'est pas reconfiné, si on peut peut-être décider une séance où on se retrouvera en présentiel pour travailler en groupe et en M1, M2 réunis.
Masqué en combinaison de guerre.
Voilà.
Avec gel hydroalcoolique toutes les 30 secondes.
Donc on verra.
C'est mieux au printemps, c'est mieux quand il fera beau, comme ça on peut aérer un peu.
Oui, ou on se mettra dehors sinon.
On se mettra dehors carrément, dans un parc. À Saint-Denis, on peut aller au parc de la Légion d'honneur, c'est pas mal.
Bah, merci à tous.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci, bonne
merci
soirée.
Merci à vous. Merci bien.
À bientôt.
À très bientôt.
Merci même.
Pour Anouchka. C'est Anouchka, en fait, qui est sûre. Mais mariée, maman, enseignante aussi. Ouais. Les amis.